Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. C'est actuellement l'été dans l'hémisphère nord. Un certain nombre d'entre nous vont prendre des vacances s'ils ne sont pas déjà à la plage, en train de prendre le temps de souffler, de déconnecter d'une vie qui va à 1000 à l'heure. C'est de déconnexion dont on va parler cette semaine avec un sociologue. On va aussi vous proposer un certain nombre de podcasts à écouter pendant l'été, pendant les vacances, donc si vous en prenez. Enfin, des mondoblogueurs ivoiriens répondront à une question qui a son importance. Pourquoi tu blogues ?
http://atelier.rfi.fr.
Combien de fois par jour attrapez-vous votre téléphone portable ? Des dizaines de fois ? Des centaines peut-être ? Dès le réveil, au coucher, à chaque fois que vous avez un temps mort dans votre journée ? En attendant le bus, dans le métro, dans l'ascenseur, et même dans les toilettes, qui sait ? Pourquoi est-il si compliqué de déconnecter pendant 5 minutes, pendant une heure, une journée ou toutes les vacances ? Francis Jauré-Guibéry, chercheur en sociologie, étudie les pratiques d'hyperconnexion et de déconnexion. Léo Caravagna l'a rencontré. Faites comme moi, prenez des notes.
Il ne faut pas s'imaginer la déconnexion comme le fait de se couper, de renoncer par exemple à son téléphone portable ou à l'internet. Pour travailler depuis plus de 10 ans sur les pratiques de déconnexion, on n'a quasiment jamais observé ce genre de choses. Sauf dans des cas un petit peu dramatiques qui s'appellent les burn-out. Les burn-out, c'est lorsqu'un individu est confronté de façon quotidienne au fait de devoir répondre immédiatement à beaucoup d'interpellations, à la nécessité de réagir immédiatement, d'avoir 3 rendez-vous en même temps, etc. Et puis de ne pas avoir les ressources pour le faire. Et à un moment donné, eh bien, il démissionne en fait, il craque, il pète les plombs devant trop d'intensité. Et dans ce cas-là, le pauvre ou la pauvre, effectivement, pour le coup, déconnecte totalement, c'est-à-dire, mais il déconnecte de tout, y compris de ses outils de télécommunication. Et c'est précisément pour ne pas tomber dans le burn-out que les individus commencent à envisager des formes de déconnexion.
Quelle forme ça prend ?
Alors, les formes qu'on peut observer de déconnexion sont tout à fait modestes. Il ne s'agit pas de prendre son portable, de le fracasser contre un mur. Il s'agit de s'arrêter pendant un quart d'heure, de mettre sur mode avion pendant une demi-heure, de décider, par exemple, de ne pas relever ses emails un samedi matin, de ne pas mettre son portable à côté sur sa table de nuit. Ce genre de choses, de prendre son petit déjeuner sans portable. C'est quand même quelque chose, et ça a l'air d'anecdotique, mais pour avoir travaillé sur des cadres dans plusieurs entreprises, je peux vous dire que l'histoire du petit déjeuner est vraiment très importante. La première chose qu'ils font le matin, c'est de regarder leur portable, vraiment, vraiment. Et la dernière chose qu'ils font le soir, c'est de regarder leur portable. Et il y en a certains qui se font réveiller la nuit par leur portable. Donc se déconnecter, c'est de dire stop. Sur cette plage de temps, je prends le risque de ne pas être connecté, parce que c'est cela dont il s'agit. C'est prendre le risque de ne pas être connecté, hein, c'est-à-dire de se couper des informations potentielles qui arriveraient à vous. Et donc, il faut savoir gérer le bon côté de ces connexions et les mauvais côtés. Et les mauvais côtés, savoir y faire face, c'est d'accepter de se déconnecter au moins partiellement, de façon située. Hein, et ça renvoie toujours à des décisions, des micro-décisions, mais qu'il faut s'habituer à prendre.
Vous avez dit on veut être connecté, mais est-ce que c'est pas aussi on doit être connecté ?
Voilà, il y a toute une problématique en sociologie sur la nécessité. Hein. Effectivement, on est dans un monde où si vous n'avez pas votre portable, ça commence à devenir dangereux. Hein. Je dis bien dangereux parce que le portable devient synonyme de sécurité. Il y a vraiment une très grosse pression. J'ai mené une recherche sur les gens qui partent en vacances. Alors, on peut imaginer qu'il y ait une partie des gens qui partent en vacances qui décident de dire « Bon, moi en vacances, je suis déconnecté. J'amène mon portable en cas pour avertir les secours ou des choses comme ça, mais le reste du temps, je suis déconnecté. » et puis je veux rien savoir. Et on s'est aperçu que, bien qu'il y ait cette volonté de la part de celui qui part, eh bien, sa famille, ses amis, ses collègues, ses voisins, qui restent donc dans le pays d'origine, lui disent « Ah non, 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 tu nous appelles, tu donnes des nouvelles, etc. » C'est-à-dire, on voit qu'il y a une pression sociale à la connexion perpétuelle. Prenez ce simple image, vous vous déconnectez, là, actuellement, vous êtes déconnecté, c'est-à-dire votre téléphone ne va pas sonner face à moi. Eh bien, dans un quart d'heure, vous allez le remettre en marche. Et si ça se trouve, il y aura une ou deux personnes qui auront cherché à vous joindre entre-temps. Et vous devrez dire, bah, écoutez, je n'ai pas pu répondre parce que j'étais en interview. Et donc, vous devrez vous justifier. Et si vous devez vous justifier de ne pas avoir été connecté, c'est qu'il s'est mis en place, de façon générale, une espèce de normalité. La normalité, c'est d'être constamment connecté. Alors vous voyez, l'imposition, personne n'a décidé qu'il fallait être constamment connecté, mais finalement, on en est dans une société où l'immédiateté communicationnelle est devenue la norme de notre gestion du temps. Et pour le coup, vouloir réintroduire du temps, vouloir réintroduire des espèces de sas temporels dans lequel il y ait du silence, ou pourquoi pas de l'ennui, hein, enfin du temps mort, c'est vraiment un fruit de notre volonté. C'est pour ça que je parle souvent de la déconnexion comme d'une épreuve. Mais cette épreuve, si on en vient à bout, évidemment, se traduit par souvent d'immenses satisfactions.
Dans l'exemple que vous avez donné, où si mon téléphone sonne mais que je rappelle seulement un quart d'heure plus tard et que je vais devoir me justifier, il y a aussi l'idée là derrière qu'on doit tout le temps être en train de faire quelque chose. Et que si je rappelle quelqu'un un quart d'heure après et que je lui dis rien ou que j'étais simplement en train de rien faire, en fait, je risque d'être mal vu.
Oui, parce qu'on est dans un monde où ça conduirait trop loin, n'est-ce pas ? Mais je vais faire vite. Où finalement, l'espoir dans l'au-delà, hein, d'une autre vie, etc., est singulièrement relativisé. On va dire ça comme ça. Notre vie, on sait qu'on a une espérance de vie 90 ans. Et cet espace-temps, dans le système dans lequel on est, eh bien, je vais dire les choses très simplement. Il faut le rentabiliser. Il faut le rentabiliser. Et le rentabiliser, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, d'un point de vue de l'instrumentalisation du réel, ça veut dire être en position de rendre notre temps plus dense, plus intense, continuellement. On est constamment à l'écoute pour savoir ce que l'on va faire demain ou après-demain, et avec une espèce de d'approche managériale, voilà, approche managériale de notre temps. Et effectivement, comme vous dites, si vous dites oh « ben non, je faisais rien », alors ça commence à paraître étrange, parce qu'on est finalement de mauvais gestionnaires de notre temps. Être un bon gestionnaire, c'est être très occupé, avoir trois rendez-vous en même temps, sauter d'un avion à un bateau, etc.
Moi, quand j'ai entendu parler de déconnexion la première fois, je pensais que la déconnexion, en tout cas la façon dont, enfin, l'objet de vos études, c'était le fait de partir une semaine, un week-end, n'importe où à l'étranger, ou même n'importe où à la campagne, ailleurs, bref, d'aller ailleurs, et de partir sans téléphone ou sans email. Et ce que vous dites, en fait, c'est que la déconnexion, c'est des stratégies qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus courtes, surtout.
Oui, tout à fait. Mais moi aussi, je suis parti avec la même problématique que vous évoquez. Et pour anecdote, on avait un collègue avec qui on a écrit un bouquin là-dessus, justement, le voyageur hyper moderne, hein, partir d'un monde connecté. On a suivi des pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors c'est très intéressant parce que si vous prenez les statistiques, on voit que tous les ans il y a des dizaines de milliers de personnes de plus qui font le chemin de Compostelle. On se dit là, il y a un phénomène social tout à fait étonnant. Et généralement, les gens font ça pour souffler un peu, pour faire le point, pour réfléchir, pour avoir du temps, etc. Et dans ce cadre-là, on s'était dit, comme vous venez d'évoquer, là ils vont pas amener leur portable parce qu'ils veulent se retrouver, ils veulent du silence, ils veulent de la méditation, voire prier, ce genre de choses. Ben non, Disons que 90% des gens qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ont leur portable avec eux, en cas, etc. Et pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce que leur environnement affectuel leur en dit « tu prends ton portable ». De façon à ce qu'on puisse te prévenir s'il arrive quelque chose, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que entre ce qui reste et le voyageur, se met en place ce qu'on a appelé un pacte de déconnexion. Et le pacte de déconnexion, c'est de dire un monsieur qui part et qui dit à sa femme, écoute chérie, d'accord, je t'appelle tous les deux jours, et s'il n'y a pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et la femme dit, ah, non, tous les deux jours, c'est trop, tous les jours, tous les soirs. Bon, allez, d'accord. Et le pacte de déconnexion, c'est de dire qu'il n'appelle que une fois par jour, le soir. Alors, ça peut être une fois par semaine, mais ça dépend.
En fait, il faut avoir vraiment de vraies stratégies, des vraies techniques pour être capable de se déconnecter. En fait, ça demande vraiment un effort conscient, une réflexion pour se dire, ok, là, à ce moment-là, maintenant, je vais pouvoir me déconnecter ou je le ferai plus tard, etc.
Oui, alors... C'est observable la grande masse pour vous et moi, quoi. Enfin, sans parler des hiérarchies d'entreprise. Quand vous avez fait un peu d'introspection, quand vous avez un quart d'heure, même pas un quart d'heure, 5 minutes de libre, vous êtes dans un lieu public, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les gens sont sur leur portable, et qu'est-ce qu'ils font sur leur portable? En général, des choses qu'ils sont incapables de vous resituer, ne serait-ce qu'une heure ou deux heures après. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils sont juste distraits. Parce qu'ils ne voulaient pas être confrontés au silence, au fait de ne rien faire, de s'ennuyer, d'attendre. Ce sont des mots tabous dans nos sociétés. Or, on sait quand même que l'attente, l'ennui, sont des moments où la création peut se déployer, où les fantasmes se mettre en marche, où les craintes, pourquoi pas, hein, où un retour sur le passé aussi peut être précieux pour donner du sens à ce que l'on fait actuellement. Donc c'est quand même dans ces moments, ces parenthèses dans lesquelles l'individu est confronté par un phénomène d'introspection au sens de ce qu'il fait, tout simplement. Et ce qui m'apparaît dangereux, c'est que dans le monde dans lequel on est, si c'est une espèce de maelstrom occupationnel, où dès qu'il y a un tout petit peu de vide, on se distrait de cela, au sens quasiment pascalien. Pascal, le philosophe, hein, quand il parle de distraction, lui, il en parlait au niveau des questionnements existentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quel est le sens de ma vie, etc. Mais n'empêche que on pourrait imaginer passer une vie sans se poser ce genre de questions, si dès qu'on a 5 minutes, on s'en distrait, au sens pascalien, encore une fois. Et justement, se déconnecter, c'est prendre le risque de se confronter à ces questions.
C'était Francis Jauré-Guibéry, sociologue et professeur à l'université de Pau, et je retiens cette notion de pacte de déconnexion. Je vais d'ailleurs tâcher de m'imposer des sas de déconnexion pendant mes vacances. Avant de vous proposer quelques conseils de podcast à écouter, voici quelques informations qui ont retenu notre attention cette semaine. Les Français regardent de moins en moins la télévision. 3h30 par jour en moyenne, selon une étude de Publicis Média citée par Les Échos. Ce sont les 15-34 ans qui s'éloignent le plus du petit écran. Une heure de consommation en moins depuis 2008. Le coupable, ou les coupables, ce sont Netflix et le streaming vidéo, d'après le quotidien économique, qui rappelle aussi que la télévision n'est pas prête de disparaître. 44 millions de Français continuent à la regarder encore tous les jours. La France, toujours, qui vient de se doter d'un droit voisin pour la presse. Transposition d'une directive européenne sur le droit d'auteur. Les plateformes en ligne comme Google, Facebook et Twitter devraient bientôt verser une compensation aux éditeurs de presse pour la diffusion de leur contenu. Objectif, rééquilibrer les rapports de force entre les médias et les GAFA, alors que ces derniers captent la majeure partie des investissements publicitaires sur Internet. Reste maintenant à négocier et la partie ne s'annonce pas aisée. Aux États-Unis aussi, les GAFA sont sous pression. Le département américain de la justice lance une enquête sur d'éventuels abus de position dominante de la part des plus grandes sociétés de l'Internet. Faute de concurrence suffisante, certaines agiraient en ne se souciant pas assez des demandes des consommateurs. Enfin, Facebook s'est vu imposer cette semaine aux États-Unis une amende record de 5 milliards de dollars par l'organe fédéral de protection des consommateurs contre les monopoles. L'entreprise de Mark Zuckerberg est sanctionné pour avoir mal protégé les données privées de millions d'utilisateurs de son réseau social. 5 milliards de dollars d'amende, au final c'est peu comparé aux 22 milliards de dollars de profits annoncés en 2018 par Facebook. Prenons maintenant un petit peu de temps pour parcourir quelques bonnes productions de podcasts parues ces derniers temps. Commençons par Injustice, proposée par Louis Média. Injustice au pluriel est présentée par Clara Garnier-Amouroux. Ce podcast s'intéresse au journalisme, mais surtout aux journalistes, hommes et femmes qui racontent le monde, mais ne savent souvent pas se regarder dans le miroir pour se raconter. Le point de départ, c'est la Ligue du LOL, cette affaire de sexisme et de harcèlement dont on vous parlait dans notre émission du 23 février. S'en sont suivies de nombreuses révélations sur des agressions sexistes et sexuelles dans les médias français.
Je suis Clara Garnier-Amouroux, vous écoutez Injustice, un podcast produit par Louis Média. Dans cette saison, le paradoxe médiatique, on déconstruit la mécanique du silence dans les rédactions. Après les révélations sur la Ligue du LOL, une vingtaine de groupes de médias ont signé une charte de bonne conduite pour lutter contre le sexisme et les agressions sexuelles. Les médias signataires s'engagent notamment à informer leurs salariés, à mettre en place un dispositif d'écoute et d'aide aux victimes et à partager leurs bonnes pratiques. Une esquisse de garde-fou dans les rédactions où il est mal vu de respecter les horaires de bureau et de partir à 18h. Et où la barrière entre vie privée et vie professionnelle est parfois floue. Mais de fait, les rédactions sont encore aujourd'hui très majoritairement dirigées par des hommes, à leur sommet et puis dans tout l'encadrement intermédiaire.
La première saison d'Injustice vient de s'achever, une saison 2 est déjà prévue par Louis Média. Poursuivons avec Aparté, podcast sur les mutations en cours dans le monde des médias, proposé par la start-up Jinkyo. Jean-Baptiste Diebold et Élise Colette proposent de longs entretiens avec les artisans de la révolution en cours dans le monde des médias.
Parfois, parce qu'on a quand même un léger problème de reproduction sociale au sein de notre belle profession, qui fait que c'est hyper rafraîchissant, notamment quand on arrive à des postes de rédaction en chef, de voir émerger des voix plus inattendues, plus surprenantes, qui ressemblent pas forcément à mes camarades de promo ou à mes amis, tout simplement. Le conseil que je peux donner, c'est de tenter des trucs. Voilà, tenter des trucs.
Et de t'envoyer des pitchs.
Et de m'envoyer des pitchs. Voilà, exactement. Pas les gâteaux, hein. Les sujets.
Les textes.
On peut envoyer les gâteaux aussi, ça, je prends.
C'était un extrait d'Aparté, en deux mots, qui recevait Thomas Rozek du podcast Programme B de Binge Audio il y a quelques semaines. Plusieurs quotidiens français ont lancé leur podcast ces derniers mois. Le principe, c'est qu'à l'instar de The Daily, proposé quotidiennement par Michael Barbaro du New York Times, c'est qu'ils reçoivent des journalistes de leur titre pour raconter un fait d'actualité, une enquête, faire le portrait d'une personnalité. Ainsi, La Croix produit l'envers du récit, Les Échos proposent la story, où Le Parisien a son code source. Présenté par un pur journaliste radio, Jules Lavie, Code Source rencontre un franc succès en France. En juin dernier, un journaliste média du Parisien revenait sur la carrière de Thierry Ardisson, de Paris Dernière à Salut les Terriens, en passant par Tout le monde en parle.
Qu'est-ce qui va conduire à l'arrêt de l'émission ?
C'est un bras de fer financier avec le groupe Canal+ et Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a demandé à Thierry Ardisson de revoir à la baisse son budget. Thierry Ardisson a estimé qu'avec le budget qu'on lui proposait, il pouvait plus faire l'émission qu'il avait envie de faire, qu'on lui demandait de faire de la télé low cost. Et donc il a refusé, il a claqué la porte. Plutôt que de faire de la télé au rabais, il a préféré tout simplement quitter le groupe Canal après 13 années de bons et loyaux services.
Vincent Bolloré qui est donc le président du groupe Vivendi qui possède Canal+. Thierry Ardisson, il n'a jamais eu peur des dirigeants de chaîne.
Non, il le connaît depuis longtemps, Vincent Bolloré. Ils se connaissent depuis des années, puisqu'ils viennent tous les deux du monde de la publicité. Ardisson l'a vu changer, l'a vu prendre le contrôle du groupe Canal+. Il a jamais combattu Vincent Bolloré, il s'est jamais vraiment opposé à sa mainmise dans le groupe Canal. Mais voilà, aujourd'hui, il est un peu en guerre. Il dit à quoi ça sert d'être milliardaire si on peut pas s'offrir Thierry Ardisson. Voilà, toujours un petit côté mégalo chez Thierry Ardisson, qui fait que voilà, il estime qu'on le paye pas assez et qu'on a plus envie de lui.
C'était un extrait de Code Source, le podcast quotidien du Parisien. France Télévisions aussi a créé son podcast. Le groupe de l'audiovisuel français produit Au comptoir de l'info. Comme son titre le laisse entendre, c'est une conversation enregistrée sur le Zinc. Elle est menée par François Beaudonnet. Et des journalistes de France Télévisions passent donc au micro. Anne-Sophie Lapix et Maryse Burgot se sont prêtés au jeu, mais aussi Hervé Brusini, prix Albert Londres et aujourd'hui directeur des rédactions web du groupe France Télévisions.
Le journal télévisé est un moment de vérité de masse. Il y a 4, 5, 6 millions de personnes et qui regardent des images. Et je suis fasciné par ce moment. Que se passe-t-il? Que regarde-t-il? Qu'est-ce que nous leur donnons à voir, à entendre et à comprendre? Ces gestes-là sont, je pense, d'une grande complexité, d'une grande richesse. Et plus on essaye d'investiguer là-dessus, plus on essaye de rentrer dans le détail de la fabrication, plus on peut mieux comprendre ce qu'est une information vraie, ce qu'est une part de vérité. Je rappelle quand même que nous vivons une époque qui s'appelle celle de la post-vérité, où la valeur de l'info est en chute libre, et donc je pense que sa réhabilitation, par-delà le fait de sauter sur sa chaise et de déplorer la situation qui est la nôtre, pour moi se fait par un réinvestissement de l'histoire pour savoir quel est finalement le statut de ces images? Quel est le statut de ces écrits? Quel est le statut de ces paroles? C'est-à-dire l'archive, de comprendre le rôle du journalisme au regard de l'histoire avec le grand H.
Vous venez d'entendre Hervé Brusini dans Au comptoir de l'info, le podcast de France Télévisions. Et pour finir, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter, si ce n'est pas déjà fait, le podcast natif de RFI intitulé Afrofuturisme. Transporté à Abidjan dans 50 ans, on s'intéresse au futur possible de l'Afrique.
Mélissa, si je te dis Afrofuturisme, qu'est-ce que tu me dis?
In the future we exist.
Dans le futur on existe, si on traduit en français, ça veut dire quoi pour toi?
Pour moi, c'est de penser à tous les films qui parlent du futur, ou même quand les gens ils commencent à penser, à concevoir de l'avenir, ils le conçoivent avec des personnes racisées en tête.
Quand tu dis racisées, c'est-à-dire ?
Des personnes non blanches.
D'accord.
les gens à qui on pense quand on pense étranger.
Ici, ouais.
Ici, par exemple. Pour moi, c'est un terme qui m'a, genre juste la culture de l'afrofuturisme m'a beaucoup aidée personnellement parce que moi, je suis déjà une grande fan de science-fiction. Pour très longtemps, je pensais que la science-fiction c'était un truc de garçons blancs parce qu'il y avait que des garçons blancs qui le lisaient
et qui écrivaient même souvent.
Et qui écrivaient. Mais ce qui est vachement bien, c'est que moi, je me suis branchée assez tôt quand j'étais jeune à la série Star Trek. Et Gene Roddenberry qui a créé cette série est un réalisateur et un scénariste juif américain qui voulait avoir un casting divers, inclusif. Et en fait, c'est la première série où il y a une femme noire qui n'est pas une bonne ou qui n'est pas une prostituée à la télévision. Et l'actrice, elle a même quitté cette série. Et du coup, il y a Martin Luther King Jr., qui était grand fan de Star Trek, lui a supplié de ne pas quitter la série. Et c'est là qu'elle est retournée.
Il a fallu que ce soit Martin Luther King qui vienne lui réclamer de rester.
Et tu vois que Martin Luther King, lui aussi, était afrofuturiste avant même que le terme il existe. Parce que si tu penses au discours, son discours fameux, I have a dream, j'ai un rêve. Tu penses à l'avenir, tu conçois de l'avenir avec toi en tête. Pas que toi en tête, mais qu'il soit un avenir inclusif.
Afrofuturisme, au pluriel, sera diffusé fin août sur RFI pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas encore écouter des podcasts. Avant de se quitter, on va vous faire entendre quelques mondoblogueurs. Mondoblog, c'est la plateforme de blogueurs francophones de RFI. Quelques-uns de ses membres se sont retrouvés il y a quelques semaines à Abidjan pour le festival Afropolitain. L'occasion idéale pour leur poser cette question. Pourquoi bloguez-vous?
Je blogue parce que j'ai envie de dire ce que je pense sur tout ce qui se passe autour de moi. Wow.
Moi, je blogue parce que j'adore la politique. Et moi, je blogue... Non, attends, ce que ça sert à dire?
Je blogue juste pour m'amuser, juste pour le fun. Le blog parce que j'aime écrire et j'aime coucher sur du papier tous mes ressentiments et mes coups de cœur.
Je blogue parce que je veux me sentir libre de dire ce que j'ai envie de dire, sans contrainte mais avec beaucoup de responsabilités. Sympa.
Je blogue pour partager mon opinion et apporter ma pierre à l'édifice.
Je voulais trop parler.
Mondoblog.org.
C'est tout pour aujourd'hui dans l'Atelier des médias, une émission préparée cette semaine avec Léo Caravagna et Simon De Creuse, qui était aussi à la réalisation, Steven Jambeau au micro. On va tous prendre quelques semaines de vacances. Aussi, vous entendrez à la radio des rediffusions de nos émissions précédentes choisies avec soin. D'ici la rentrée, vous pouvez nous réécouter en podcast. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de l'Atelier des médias.